40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'art contemporain en ligne et même, je crois, du design. Mon invitée est Vera Kempf, qui est la fondatrice de SingulArt et plus récemment de son petit cousin, BaltazArt. Salut Vera.
Bonjour Solène.
Alors Vera, on est ensemble ce matin grâce à Vincent Hunier, qui est le fondateur de Malte, qui t'a choisi comme Sista lors de son enregistrement de 40 nuances de Next à Vivatech en juin dernier. On a mis un peu de temps pour organiser cette interview, mais on y est arrivé. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de SingulArt, je t'ai demandé, Vera, juste avant d'appuyer sur rec de cet enregistrement, de choisir une musique qui symbolise ton aventure.
C'était pas cool parce que vraiment, trouver en 2 minutes la chanson.
Et tu as choisi ça.
Qu'est-ce que tu fais soir? T'as un rencard ou tu viens dîner chez Edgar? On s'est d'accord, tu me rappelles si je suis pas là.
On est vendredi en même temps, donc
exactement.
C'est pas mal.
Pas rappelé, considère que
c'était peut-être la chanson que j'avais envie d'entendre ce matin.
Jusqu'à 3 heures. Bye bye, les galères. On va changer notre atmosphère. Dance the night away.
Tu nous expliques du coup pourquoi ce choix en plus d'être vendredi?
Mais quand tu m'as demandé une chanson qui retrace l'aventure, c'est quand même un petit peu compliqué. Une seule. Mais c'est vrai que les ups and downs de la start-up, la nécessité aussi de décompresser, fait que voilà, parfois on sort et on essaie de tout oublier. Tout ce qui s'est passé, les mauvaises nouvelles de la journée. Et parfois ça fait du bien tôt. Effectivement, d'oublier un peu tout ça pour recommencer à fond le lendemain. Et voilà, c'est quelque chose que je pense que j'ai appris dans l'aventure startup.
Et aussi fêter les victoires.
Exactement.
En faisant la fête, parce que SingulArt, c'est une belle aventure.
C'est une belle aventure.
On va en parler. Aujourd'hui, c'est une belle marque aussi. Moi, je suis toujours intéressée de savoir comment les entrepreneurs ont construit leur marque.
Alors c'est une bonne question parce que je suis vraiment pas du tout calée sur le sujet. J'ai recruté une responsable brand pour ça. Non, c'est rigolo d'ailleurs parce que je pense que aucun de mes associés et moi on pensait que construire une marque était important pour le business en tant que tel au début. On était un petit peu juste obsédés par vendre et
bien
montrer
sûr.
Que c'était
et
possible.
Et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs.
Exactement. Et puis à un moment, on s'est rendu compte que la perception de nos clients, déjà le type de clientèle qu'on avait, c'était des gens assez fortunés, qui probablement allaient dans des magasins plutôt de luxe, dans leur vie quotidienne ou en offline. Et on s'est rendu compte que la perception de notre site et de notre marque était bien plus premium que ce que nous, on avait pensé refléter. Notamment en Allemagne, en fait, puisque l'Allemagne a tout de suite très bien marché chez SingulArt. Et effectivement, là-bas, on est notre site qui était pas exactement le même. Il est quand même plus premium aujourd'hui, mais déjà à l'époque, il était considéré comme premium. Et donc là, ça nous a mis un peu la pression parce qu'on s'est dit, waouh, en fait, on est beaucoup plus premium que ce qu'on pensait. Donc maintenant, on sait qu'il faut faire attention à chaque détail, comment on fait. Et donc, c'est après notre série A qu'on s'est dit que ce serait important d'investir sur la marque. Donc, moi, je savais même pas comment s'appelait le job pour faire ça, en fait. Donc, on a pris une responsable com brand qui est super, Carole Zibi, qui travaille chez Chance aujourd'hui et qui, à l'époque, faisait du consulting. Et en fait, elle m'a expliqué ce que c'était une marque, déjà.
Une plateforme de marque,
voilà. Ensuite, elle m'a aidé à construire la job desk pour recruter ma head of brand. Et voilà, c'était un processus qui a pris 8 mois environ. Et puis, il y a bientôt 2 ans, Anne-Claire nous a rejoint pour gérer ça avec son équipe. Donc voilà, Maintenant, je fais confiance aux experts.
Alors, on rembobine un petit peu en arrière parce que moi, je suis partie sur mes sujets dada de marque.
Ouais.
Pour nos éditeurs qui ne connaîtraient pas encore Cindy L'Art, est-ce que tu peux nous dire en trois mots ce que vous faites ?
En trois mots, galerie, art, online.
C'est bien résumé.
C'est bien résumé. On est une galerie d'art en ligne, vraiment pour simplifier. Mais après, contrairement à une galerie classique, nous, on va représenter 13 000 artistes de 130 pays différents. Donc voilà, galerie d'art, c'est pour comprendre qu'on vend des œuvres d'art en direct des artistes. Notre vocation, ça a été dès le début de les digitaliser, de les accompagner dans l'ouverture d'un nouveau canal de distribution, mais aussi plus globalement de permettre aux amateurs d'art de découvrir les talents du monde entier. Puisque ça, on trouvait que c'était assez compliqué quand on habite, je sais pas, à Lyon ou à Austin, de découvrir les talents du Chili, de Bavière, voilà. Donc ça, c'était assez compliqué si on n'allait pas faire toutes les foires d'art, et puis même, on savait pas forcément où regarder. Donc ça, c'était l'ambition de départ, de sélectionner des artistes qui sont professionnels, qui vivent de leur travail, donc ce qui signifie qu'il y a des collectionneurs qui ont acheté leur travail de manière locale, et nous, on leur apporte une visibilité internationale.
Et quand tu dis artiste, c'est peinture ?
Peinture, sculpture, photographie.
Ouais.
Et puis donc, plus récemment, on a ouvert la partie mobilier.
Ouais.
Donc avec des designers indépendants, mais aussi des petits studios, des petites marques design.
Alors, le marché de l'art, c'est quand même un marché extrêmement codifié. Quand tu viens pas du sérail, on te regarde un petit peu de travers.
Qui es-tu ?
Comment ça s'est passé pour vous et comment le marché traditionnel a réagi lorsque vous avez mis online votre site ?
Alors, c'est vrai que dès qu'on a lancé, de toute façon, on a lancé le site avec 150 artistes. C'était un petit peu l'objectif. Pendant 3-4 mois, on avait une équipe, on recrutait les artistes.
Et comment vous les avez convaincus ? Alors, je te coupe la parole, mais comment vous les avez convaincus, ces artistes ?
Très honnêtement, je pense que c'est le fait d'avoir levé 1 million d'euros. Donc, quand on les appelait, on avait déjà une équipe. On avait levé 1 million d'euros. On leur envoyait les maquettes.
Ils font ça dans un garage rapidement.
Ouais, exactement. Je pense que ça les a beaucoup rassurés parce qu'il y a eu quand même beaucoup de tentatives. Il y avait déjà pas mal d'offres et on leur envoyait les maquettes et on leur expliquait un petit peu la philosophie. Donc je sais pas, c'était le pitch de mes sales qui était bon. mais l'événement capitalistique, je pense effectivement, leur a fait dire OK, en fait, ils vont pas fermer dans 6 mois, quoi. Donc je pense que ça a été un élément assez fort. Et on appuyait aussi beaucoup sur le fait que on venait pas du monde de l'art et qu'on était des experts du digital.
Qui leur ouvrait un nouveau canal
de distribution, exactement, mais en disant en fait, nous, c'est ça qu'on sait faire. On sait pas prédire qui sera le prochain Picasso. On leur disait de manière assumée, voilà, on va pas curater une ligne éditoriale. On va pas faire que du street art, on va pas faire que de l'art abstrait. On veut que tout le monde puisse trouver quelque chose qui lui plaît. Donc ça implique que oui, il y a des artistes que vous n'allez pas forcément aimer, dont vous n'allez pas forcément vous sentir proche. Et puis donc ensuite leur dire, par contre, nous on sait faire du web marketing, nous on sait convertir les clients. Et ça, je pense que c'était quand même un élément fort dans notre pitch, et je pense que ça a dû les convaincre.
Et vous savez, des artistes qui vous ont boudé et qui sont revenus après.
Je pense que, enfin, j'ai pas d'exemple précis, en plus je veux pas.
Non, pas shame, de nom. Non, je voulais pas de nom. Je te rassure.
Probablement, mais en fait, je pense qu'ils ont juste pas répondu à nos premiers mails, et puis quand on les a relancés, ils nous ont écrit. En revanche, moi, effectivement, j'ai l'enjeu aussi de... Maintenant, il y a tout de même certains artistes qui sont peut-être un peu plus reconnus, qui sont dans un marché dont le prix, leur cote est un peu plus élevé que la moyenne de ce que nous, on représente. On a beaucoup d'artistes qui ont une cote en dessous de 10 000 euros, c'est-à-dire qu'ils vendent des œuvres en dessous de 10 000 euros. On en a, et convaincre ceux qui sont plutôt dans la tranche entre 20 et 50 000, ça, c'est encore... On n'y arrive pas encore très bien.
D'accord.
Mais on va y arriver.
Vous allez y arriver, c'est votre prochain défi.
C'est mon prochain défi.
Là, tu m'as parlé côté artiste, côté galerie. On vous regarde comment ?
Non, je me suis... J'ai pas réussi à parler beaucoup aux galeristes. Ils acceptaient pas nous rencontrer. Donc j'y suis allée par un chemin détourné, je rencontrais les assistants des galeristes qui avaient mon âge, avec qui je pouvais demander de prendre un café, etc. Pour comprendre comment ça marchait. Mais donc j'avais pas réussi à parler avec des galeristes vraiment d'égal à égal et partager sur leur métier, etc. Donc effectivement c'est un monde voilà, qui... Enfin, j'ai eu ce sentiment, du fait de ne pas pouvoir être reçue par ces personnes-là, que c'était un monde où il y avait beaucoup de méfiance et de défiance. Et c'était un monde très hostile au digital avant le Covid. Le discours a complètement changé post-Covid, enfin pendant le Covid. Donc maintenant, je pense que les gens sont plus ouverts et ne disent pas que acheter de l'art en ligne, c'est juste pas possible. Mais on n'a pas... vraiment de contact régulier avec les galeries. Certaines de mes équipes, oui, parce que quand on va en foire, on est une galerie comme une autre. On a
c'est ce statut.
Voilà, on a réussi, on est la première galerie d'art 100% en ligne, on n'avait pas de pas de porte, qui est normalement un critère pour entrer dans une foire.
Et ça, justement, c'est grâce au Covid, mais grâce au Covid est bizarre.
Pour le coup, pour rendre crédit à notre responsable curation, elle a réussi à nous ouvrir les portes des foires avant le Covid, tout simplement parce que on a compris qu'ils avaient peur qu'on sache pas curater un stand et que, je sais pas, on mette plein d'artistes, enfin, soit qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, soit qui n'allaient pas aller avec la ligne éditoriale de la foire. Et quand on leur a montré que... Ben, voilà.
Vous avez besoin d'être rassuré en fait sur votre capacité à gérer que vous n'étiez pas juste une marketplace
exactement,
d'artistes.
Exactement, qu'on allait faire une belle curation, un beau stand. Et donc on a eu un prix d'ailleurs sur une des foires, donc on était le plus beau stand, donc voilà, c'est sympa. Et là, moi j'avais fait la première foire. Et là, les galeristes venaient nous voir et nous disaient « Non, mais c'est pas des vrais artistes que vous représentez, etc. » Donc moi, j'ai eu ce genre de remarques. Et puis, il y avait les gens...
Un café.
Voilà. Et puis, il y avait les gens plus curieux qui venaient nous dire « Ah, et comment vous faites ?» Donc, on a eu un petit peu les deux. Et je pense que les gens curieux, la proportion de gens curieux a augmenté avec le temps.
Et puis, il y a peut-être aussi un changement de génération.
J'ai pas encore trop vu ça.
D'accord.
Mais c'est sûr que, bah, avec le Covid, les gens sont plus ouverts. On est aujourd'hui une marque quand même reconnue dans ce monde-là quand même. Enfin, on existe, quoi. Avant, ils nous connaissaient même pas. Ils nous découvraient lors de la foire. Maintenant, ils nous ont spotés avant. Y a même un très grand galeriste à Berlin qui a débauché certains de nos talents. mais tout ça pour dire que il y a une curiosité et on a même fait des partenariats à l'occasion de ventes événementielles post-Covid avec des galeries qui n'avaient pas encore réouvert. Et nous, c'était une manière aussi de pouvoir vendre un inventaire du second marché.
Ouais.
Qu'on a vendu un Picasso, on a vendu un Renoir, on a vendu des Dali. Ça participait à l'image de marque.
Bien sûr.
On s'est dit, on ne vend pas de second marché. Notre positionnement, c'est vraiment en direct des artistes contemporains, faire connaître la création contemporaine.
Parce que c'est un autre business, le second marché.
Oui, et puis il y a tout un tas de problématiques d'authentification, de traçabilité, où c'est pas du tout impossible en ligne. Il y a des plateformes qui le font, mais voilà, on n'est pas aujourd'hui organisé, on n'a pas les ops et la structure pour.
Ça pourrait être un développement.
Ça pourrait, mais encore une fois, c'est un nouveau business, il y a plein de choses qu'il faut checker avant.
Avant, ouais.
Donc là, pour nous, c'était une manière de se dire, en termes de branding, c'est génial pour nos artistes de dire... On est vendu, on est représenté sur une plateforme où ils ont déjà vendu un Picasso, un Dali. Mmh. Voilà. Donc, en termes de branding, c'était super. Et ça nous a permis aussi de tester potentiellement l'appétence de nos clients pour des noms très connus du second marché.
Alors, justement, j'allais te poser une question. Tu parlais d'événements spéciaux lors de ces ventes-là. Quand on pense galerie d'art, on pense vernissage, rencontre, discussion,
petit four et champagne.
Du coup, comment vous prolongez, en fait, l'expérience digitale en offline? Est-ce que vous le faites? Déjà, alors, j'ai compris que oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus systématisé ou des rencontres avec des artistes pour créer aussi du lien avec sa communauté, finalement?
Alors, c'est une bonne question. Nous, du fait de l'international, c'est quelque chose de compliqué, puisqu'on a à la fois des artistes partout dans le monde et des clients partout dans le monde. Ils ne parlent pas la même langue, donc les faire communiquer entre eux est un challenge. Mais alors, côté artiste, on le fait. On a commencé à créer des petites groupes, de communautés, et puis on fait beaucoup de webinars. Enfin, voilà, c'est comment animer la communauté artiste. Ça, on y arrive quand même assez bien.
Par art et par, ou par pays, par art?
Non, par pays. Et on a fait quelques rencontres physiques.
D'accord.
Mais c'est pas quelque chose de systématique.
Ouais.
En revanche, on a voulu recréer ce lien, voilà, de proximité, de confiance que peut exister avec le galeriste, en y rajoutant la notion de communauté, parce que ça n'existe pas entre les artistes d'une même galerie.
Oui.
Donc ça, c'est quelque chose côté artiste qu'on fait. Avant le Covid, on faisait un événement par an en physique dans nos bureaux et on avait beaucoup du coup d'artistes français qui venaient. Donc ça, c'était très très sympa. Puis après, on a voulu intégrer les autres, donc on a fait ça online.
Ben oui.
Mais
puis après le Covid, t'as obligé de faire online.
Exactement. Hein. Voilà. Et côté collectionneur. On essaie de créer le lien entre artiste et collectionneur plus au moment de, voilà, avec le petit mot que l'artiste va potentiellement mettre dans le paquet, des choses comme ça. On essaie d'inciter les artistes à le faire. Mais prolonger l'expérience post-vente, ça reste soit via téléphone, donc c'est pas totalement digital. Mais oui, on veut créer ce lien de confiance avec nos collectionneurs, donc on va les appeler, quand il y a des, post-Covid, du coup, il y a quand même beaucoup d'Américains qui, quand ils passent à Paris, ils nous écrivent.
D'accord.
Et donc, ils passent au bureau, ils rencontrent les équipes, c'est chouette. On a un petit rituel maintenant, c'est vraiment super. Chaque mois, il y a un advisor qui présente un de ses collectionneurs, ce qu'il a acheté, ce qu'il fait dans la vie. Et le collectionneur, soit envoie un email, soit envoie une petite vidéo, donc c'est sympa. Et puis là, on a donc ce qu'on fait en foire, vraiment en offline, nos activités offline. Nous, c'est les foires.
Ouais.
Et on a ouvert notre première boutique à Berlin la semaine dernière.
Félicitations.
donc ça, c'est le offline, mais on ne le voit pas comme une manière de prolonger l'expérience vécue en digital par nos clients.
Ouais.
On le voit comme une manière...
Un autre canal d'acquisition.
Et voilà, rencontrer une population qui n'aurait pas souhaité ou pensé acheter une œuvre d'art en ligne.
Alors, tu l'as dit rapidement, vous êtes à l'international et en fait, vous êtes très vite lancé sur ce marché-là. Et
tout
je crois que nous avons une question à ce sujet.
Vous avez un message.
À quel moment elle est partie est-ce qu'elle a déjà démarré son business en France ou est-ce qu'il a été tout de suite nativement européen, voire mondial? Et pourquoi ce choix plutôt que le choix que font beaucoup de gens de d'abord construire et de structurer bien les choses en France et aller ensuite à l'étranger?
Salut Vincent.
Tu l'as reconnu.
Oui, la proposition... On n'a pas essayé de structurer quelque chose en France avant de se lancer à l'international. La proposition de valeur au départ est-elle internationale, puisque c'est ce qu'on voulait apporter aux artistes. Recruter des artistes dans des pays qui ont une reconnaissance dans leur pays et les emmener à l'international. Donc forcément, ça impliquait de commencer avec quelques pays, en tout cas.
Oui.
Donc l'Europe, on s'est dit d'abord l'Europe. Et ensuite, bien sûr, l'international, ça voulait quand même dire les États-Unis, quoi.
Qui a un très gros marché, j'imagine.
Qui a un très gros marché, mais qu'on a lancé pour le coup un tout petit peu après.
Ouais.
Donc on s'est d'abord lancé, en fait, très, très basiquement, on a recruté des talents en anglais, allemand et français, donc des pays limitrophes de la France, en se disant, parce qu'on ne savait pas si ça allait marcher, en fait, de recruter des artistes sans les voir. On ne savait pas s'il faudrait rencontrer nos clients. Enfin, voilà, quand on se lance, on fait des hypothèses. Donc, on s'est dit, bon, Allemagne et Angleterre, c'est pas très loin. S'il faut prendre un train, on prendra un train. Mais c'était au moins déjà l'Europe. Très rapidement, le recrutement d'artistes s'est fait dans... Enfin, quand je regardais les nationalités, j'ai fait, OK, bon, au bout de 3 mois, on avait déjà 50 nationalités différentes. Je fais, bon... Voilà, on va recruter un espagnol et un italien. Et puis après, en acquisition, on a testé très rapidement plein d'autres géographies parce qu'on s'apercevait que le pain qu'on allait résoudre, c'était le même. Le marché était organisé de la même manière dans les pays, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, en design, là, je me rends compte à quel point par géographie, ça peut être très différent. Donc, pour répondre à la question de Vincent, on l'avait dans la proposition de valeur dès le départ, donc c'était important de le faire. Et on a eu la chance qu'il n'y ait pas de spécificité par marché et qu'on puisse donc très facilement dupliquer ce qu'on faisait dans plein de pays très facilement.
Et il y a des concurrents, par exemple, je sais pas, sur le marché US, qui est quand même un très grand marché au niveau de l'art, ou l'Allemagne, qui je crois est aussi plus en avance que nous sur aussi le fait d'acheter en ligne. Il y a des concurrents que vous avez identifiés.
Alors, il n'y avait pas beaucoup de concurrence en Allemagne. Il y a pas mal de concurrence aux États-Unis. Il y a des acteurs qui sont établis depuis plus longtemps, qui ont des marques assez reconnues. Mais c'est aussi une belle chose parce que ça veut dire que le marché est beaucoup plus évangélisé.
Oui, ça va plus vite pour les collectionneurs qui ont plus l'habitude d'acheter une œuvre sans l'avoir vue forcément.
Exactement,
physique.
Exactement. Sur les marchés européens, je pense qu'il y a un rôle d'évangélisation qui est un peu plus long et qui va se faire avec le temps. Aux États-Unis, comme il y avait des marques déjà installées, ça a pris plus rapidement.
Votre business model ?
On est à la commission comme une galerie classique. Donc c'est gratuit pour les artistes et c'est au succès.
On a commencé en disant ce soir on oublie les galères.
Oui.
Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prononcent la phrase non mais là je sens que ça commence à prendre. À quel moment toi tu t'es dit là je sens
que ça prend.
Ça prend.
Je pense que c'est quand on a commencé à faire je crois que c'était on avait fait 20 ventes je pense pendant un mois après avoir fait 4 mois où on avait fait 2 ventes par mois. Quand ça a commencé à décoller, là, on s'est dit, bon, il y a un market fit, ça c'est cool. Mais après, je pense que c'était plus existentiel. je pense que c'est au bout d'un an avec une équipe. Un an après le lancement du site,
ouais.
Où là, je me suis rassurée émotionnellement en me disant, c'est bon, l'année prochaine, tu feras toujours la même chose. Non, mais c'était vraiment mon angoisse. Enfin, moi, j'avais monté un projet avant qui n'avait pas fonctionné. J'avais 26 ans quand j'ai monté Singular, donc j'avais pas des expériences hyper longues avant. Et en fait, j'avais vraiment ce truc de j'aimerais bien pouvoir dire à ma famille au prochain Noël que je fais toujours la même chose. C'était très bête, mais en fait, quand j'ai commencé à me dire, ouais, l'année prochaine, on sera toujours là. Je sais pas dans quelle configuration, je sais pas à quel point la croissance aura été forte, je sais pas si on aura doublé l'équipe, mais on sera toujours là. Et là, je pense qu'il y a, ça a switché
switch
dans ma tête.
Ouais, tête.
Ça a switché, je me suis rassurée et j'ai été un peu plus pisse.
Tu t'es pas lancée seule dans cette expérience? Et t'aurais pas pu. Tu peux nous parler de tes associés?
Oui. Donc, on est 4 associés, 3 cofondateurs. L'aventure, elle démarre parce que j'ai rencontré Denis Fayol, qui est donc un serial entrepreneur en France, qui a monté plein de business et qui accompagne des duos de cofondateurs jusqu'à, pour les aider à faire la première levée de fonds et jusqu'au recrutement de la première équipe. Et donc, une fois qu'il n'y a plus que les... c'est une équipe et qu'il n'y a pas juste les cofondateurs. Voilà, il se met plus en retrait, mais on continue à le voir très régulièrement à travailler avec lui. Lui, il a cette expérience de 0 à 1, de réfléchir au business model, d'enlever toutes les barrières et les obstacles et pas répéter des erreurs. Donc
c'est un accélérateur.
Ça fait gagner beaucoup de temps. Ensuite, donc on a rencontré Brice. Et donc là, c'est vraiment un profil complémentaire. Une fois qu'on a eu défini la proposition de valeur et qu'on a identifié quelles allaient être les grandes équipes et que moi, selon mes compétences et mes affinités, j'avais un petit peu défini le champ, le périmètre dont j'allais m'occuper, et ben du coup, il restait le reste. Et on a recruté quelqu'un qui avait envie de faire le reste. Voilà, donc ça, c'était très chouette. Et puis, une fois que... quasiment au moment où on a levé des fonds, on a recruté notre CTO, Guillaume, qui est donc associé aussi à l'aventure.
C'est souvent des questions que se posent les entrepreneurs. Moi, je fais un peu de mentorat. Et c'est comment ça marche avec les associés, comment je trouve mon associé, comment je sais que c'est le bon associé. J'en ai discuté récemment aussi avec Nathalie Ballin, qui je lui disais que son binôme avec Eric Courtail était devenu un cas d'école. Toi, t'es la seule fille avec ces garçons. Est-ce que ça apporte quelque chose? Comment vous vous êtes choisis, en fait, au-delà de... Il y a des complémentarités de compétences où ça, c'est génial et tant mieux, parce que si on fait tous la même chose, c'est quand même embêtant. Mais ça suffit pas pour que la magie opère entre associés. Est-ce que tu aurais des tips à partager là-dessus?
Ce qui nous réunit, c'est les valeurs et l'ambition. Donc, Alors, du coup, finalement, Denis.
Vous les avez testées, les valeurs?
Ouais, on les a testées. C'est une grille d'entretien. Et ouais. C'est d'ailleurs certaines questions que je continue à poser en entretien de recrutement. Mais oui, c'était important de partager l'ambition parce que l'ambition détermine est-ce que tu veux lever des fonds, combien, est-ce que, tu seras prêt à faire des compromis perso, et effectivement, est-ce que tu as envie de lever des fonds ou est-ce que tu veux être en autofinancement? Ça, c'est quand même un truc de départ. Ensuite, les valeurs, parce que si t'es complémentaire, si tu vois pas si ton cerveau fonctionne pas pareil, y a des choses qu'il y a quand même des situations où il faut trancher, où il y a des décisions difficiles à prendre. Si t'as des valeurs communes, tu sais que tu vas te rejoindre. Il faut juste arriver à prendre la meilleure décision en profitant de la complémentarité. Donc moi, je dirais, bien définir les valeurs, ça implique de bien se connaître, en fait. C'est assez important. Moi, je sais que quand j'ai monté ma première boîte, j'avais pas mal regardé. Je suis rentrée dans le monde des startups, dans le monde de l'entrepreneuriat, et donc j'ai découvert les tests de personnalité, les MBTI, etc. Et je trouve que ça m'a énormément aidé à me connaître et donc aussi à voir
les personnes avec qui ça allait fitter ou pas,
ce qui pouvait être compatible ou pas avec moi et ma manière de faire. Donc je pense que ça a été assez déterminant pour ensuite choisir la personne où je saurais que ça se passerait bien. Mais après, c'est un construire la relation d'associé, c'est un investissement de tous les jours. Donc c'est pas parce que ça se passe bien au début que ça va pas toujours bien se passer, ou c'est pas parce que c'est compliqué au début que ça va pas, qu'il y a pas une solution pour que ça se passe mieux. C'est beaucoup de communication, justement parce que t'es très différent, il faut surcommuniquer. Ça, pour moi, c'est le conseil que j'aurais à donner, c'est surcommuniquer pour être sûr que t'as compris ce que je voulais dire et t'as pas interprété ce que je voulais dire.
Nathalie Ballet disait c'est une force, en fait, ce binôme. C'est pas forcément une question de genre, c'est plus une question de personnalité. Moi, il y a des gens avec qui ça passe mieux avec moi, d'autres ça passe beaucoup mieux avec Eric. Et je pense pas que c'est une question de genre. T'es d'accord avec ça?
Alors, faudrait que j'imagine Brice si c'était une fille, tu vois, je sais pas. Probablement, c'est une question de personnalité. Après, par exemple, dans le recrutement, je sais qu'il y a on a beaucoup de femmes chez nous. Je pense que c'était quand même important qu'il y ait une cofondatrice. Tu vois, ouais. S'il y avait eu deux mecs avec un tempérament du coup plutôt comme le mien, peut-être qu'ils auraient eu moins de mixité dans le recrutement, par exemple. Ça, je pense que ça joue. Et ensuite, je pense que beaucoup de gens qui passent un entretien avec nous, quand ils nous voient l'un après l'autre, ils disent « Ah ouais, non, mais on comprend la complémentarité juste en passant une heure avec chacun. »
Donc ça, c'est beau.
Ouais, c'est beau.
Là, tu parlais de mixité dans les équipes. Je reviens sur la plateforme. Il y a une belle mixité aussi sur votre...
Sur les artistes.
Sur les artistes.
Ouais, on a 49% de femmes.
Ouais.
Et on essaie, on fait un travail en ce moment. On est accompagné par, d'ailleurs, Gloria, qui aide sur ces questions de mixité. Et on leur a demandé de nous aider sur la question de comment on pouvait aller plus loin que juste faire ça. Et est-ce qu'il y a d'autres types de discrimination que vivent nos artistes dans le monde de l'art offline, que nous, soit on a déjà résolu, en fait, sans rendre compte, vu notre média et vu la manière dont on opère, et ou certaines discriminations qu'on n'a pas réussi à enlever.
Tu penses à quoi?
Sur lesquelles justement, on ne sait pas forcément.
Ah oui, tu sais pas.
Tu vois, exactement. Par exemple, les personnes homosexuelles, est-ce que ils le considèrent, enfin les artistes homosexuels, est-ce que c'est un frein dans le monde offline ou pas du tout? Ou pas du tout, enfin pas ouais. Aussi fortement que peut-être le genre. Et est-ce que les artistes homosexuels se sentent bien représentés par Singular? Nous, on a la grande question de les origines sociales.
Ouais.
Parce que nous, on recrute des artistes sur SingularArt qui ont déjà vendu qui vivent de leur travail. Donc, ils sont forcément déjà arrivés à un certain stade dans leur carrière. Donc, la question de la mixité sociale se pose. C'était un gros sujet dans les équipes au moment de Black Lives Matter aux États-Unis. On a une équipe où il y a des Américains. Et c'était une question en RH multiculturelle de qu'est-ce qu'on fait en tant que boîte, alors qu'on est française, pour bien réagir ou pas réagir à ce sujet qui est très américain.
Oui.
Et par exemple, j'ai dû expliquer à mes équipes américaines qui ne savaient pas que je ne pouvais pas communiquer sur le nombre de personnes de couleur dans ma boîte ou sur ma plateforme, parce que juste, c'était illégal.
Ouais.
Et en fait, c'est pour eux, c'était juste pas possible.
C'est
pas
un choc des cultures.
C'était un choc des cultures en interne. Par contre, je leur ai dit, en revanche, c'est un wake-up call. Et c'est sûr qu'on est très crédible sur la mixité, puisqu'on a un duo de cofondateurs, on a ce pourcentage de femmes artistes. Maintenant, c'est vrai que proactivement, on n'a jamais mesuré ou réfléchi à cette question sur comment mieux faire pour représenter les origines diverses des artistes. Donc, comment on le fait? Et bon, voilà, c'est Black Lives Matter, c'était il y a 3 ans, mais ça prend un peu de temps. On a réfléchi légalement, on en discutait avec Gloria et on s'est dit que la meilleure manière, c'était de faire des focus groups. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et je ne sais pas sur quoi ça va déboucher. Mais voilà, c'est ces questions-là qui sont intéressantes du fait d'avoir une équipe multiculturelle et en fait de se dire, voilà, c'est important dans certaines géographies, c'est important pour certains de nos clients. Mm-hmm. Comment on adresse ça en tant que...
Et puis c'est un positionnement
français.
De marque aussi.
C'est un positionnement de marque. Voilà, Singular, c'est la diversité. Mm-hmm. C'est un ADN très fort. Maintenant, comment on le fait? Est-ce qu'on doit le faire émerger? Est-ce que les artistes en ont besoin? Est-ce que c'est important pour eux? Moi, j'ai des amis artistes du continent africain. Tu peux écrire que je suis artiste africain si ça aide pour me vendre, mais franchement, enfin, je dis juste que je suis artiste, quoi. Enfin, voilà.
Pourquoi être réduit à son origine,
géographique, exactement.
Est-ce que tu observes le même phénomène que dans la tech et les levées de fonds entre les femmes et les hommes, les femmes qui soit lèvent globalement moins, à qui on pose des questions différentes et qui souvent n'osent pas demander autant que les hommes, et c'est notamment l'un des combats de Sista. Est-ce que tu observes ça dans le marché de l'art entre les artistes féminines et les artistes masculins?
Il y a une différence de pricing. Elle se price 30% moins cher que les hommes. Voilà, déjà, on l'a calculé, on l'a mesuré, et justement, on va essayer d'agir là-dessus.
Sur des cotes similaires?
Ouais, sur des artistes qui ont des CV similaires, ils se pressent 30% moins cher. Elles se pressent 30% moins cher. Et on essaye là justement de comprendre avec les focus groupes qu'on fait en ce moment. Il y a quelque chose qui ressort déjà dans le quantitatif, c'est la parentalité. C'est le fait d'être mère qui est un obstacle fort à leur carrière.
Toute ressemblance avec d'autres secteurs, ça va fortuite.
Exactement. Et pas, si tu rajoutes la spécificité du monde de l'art, c'est que elles disent, dans les verbatims, le fait de peindre, c'est censé être un truc relaxant, voilà, un peu un hobby quand tu es une femme artiste. Et donc, on ne t'autorise pas trop à le faire de manière... à travailler 8 heures par jour dans ton studio parce que c'est juste pour toi, pour te faire plaisir. Donc, c'est cette perception-là des autres, de leur famille, de leur entourage ou même du monde plus globalement. Donc, quand elles deviennent mères, c'est très compliqué pour elles, d'après ce qu'elles disent, encore une fois, je généralise, mais d'aller au studio de 9h à 18h. Parce qu'en fait, c'est ça que fait un peintre. Il va au studio de 9h à 18h. Enfin, je les horaires, je sais pas, mais en gros, c'est...
Comme quelqu'un irait au bureau
exactement.
Travailler.
Et ils le disent. Et voilà, tout comme certains écrivains disent, à un moment, pour écrire un roman, il faut se mettre devant sa table de travail tous les jours un certain nombre d'heures. Sinon, l'inspiration, elle vient pas. Donc, et ça a été aussi un truc très intéressant au début de SingularT. En fait, on arrivait à les joindre assez facilement, les artistes, alors que je pensais que ce serait compliqué, tout simplement parce que ils sont au studio, quoi, donc ils sont seuls, ils sont dispo et ils peuvent prendre notre call. Donc ça, elles disent que c'est la parentalité est compliquée, est un obstacle et probablement un frein à leur carrière.
Et vous envisagez de les aider aussi sur ces sujets-là? En tout cas, d'essayer de faire avancer les choses, les mentalités, le débat?
C'est un sujet sur lequel on essaie déjà de comprendre. Et après, quelles peuvent être les actions qu'on va mettre en place? Je sais pas.
Mais déjà en avoir conscience, mais et déjà le dire, de
comprendre. Oui, voilà.
Le verbaliser fait déjà moi, partie du processus.
Pour nous, ce que je trouve, enfin voilà, la mission de Singular, c'est d'accompagner les artistes, empower artistes, c'est vraiment la genèse et ce qui nous drive au quotidien avec mes associés, donc une grosse partie des équipes aussi. Donc comprendre comment on peut les accompagner, c'est clé, mais c'est aussi se dire on a la force de frappe de dire on représente 13 000 artistes. Mmh. Et du coup, ce qu'on va dire, c'est statistique, quoi. C'est pas juste une galerie normale représente 10, 15 artistes. Donc, elle ne peut pas dire que c'est un phénomène de société. Donc, c'est bien un sûr. Petit peu ça que j'essaie de, moi, c'est un peu le, voilà, l'impact que j'espère qu'on peut avoir avec SingularArt. À la fois de se dire, il y a des sujets sur lesquels on va pouvoir les sensibiliser. Et ça, c'est, de le dire au micro, m'engage. Mais typiquement sur la question environnementale, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un discours sur, OK, les artistes et l'environnement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils sont conscients de ces enjeux-là dans leur pratique? Le risque potentiellement de certaines peintures qu'ils utilisent pour l'environnement, etc. Parce que bah, y a pas de syndicat des artistes, quoi. Donc ouais. Finalement, nous, le fait de parler à 13 000 artistes, on peut avoir une influence. Mmh. Et à l'inverse, faire remonter ces problématiques de bah, nous, on représente 49% de femmes artistes et elles rencontrent tel et tel problème. Donc ça, c'est ce que je trouve hyper intéressant et c'est un peu notre responsabilité. Et, enfin voilà, on essaie de le faire sérieusement.
En tout cas, vous le portez très bien.
Merci.
Du coup, j'ai une question qui me venait parce que par rapport donc aux femmes artistes, aux artistes que vous défendez. Vous pouvez être des ponts aussi pour certains artistes. Je pense notamment aux fondations. Mm-hmm. Vous avez des liens particuliers avec eux. Vous pouvez placer ou pousser certains artistes en particulier. Ça fait partie de votre mission.
Ça fait partie de notre mission et comme la marque, c'est ton dada, c'est aussi un enjeu de marque. On ouais. est la première galerie digitale à être rentrée sur une foire offline. C'était aussi dans le but d'être crédible sur le marché de l'art parce qu'on doit aussi rassurer nos collectionneurs sur le fait qu'ils payent un prix validé par le marché. Mmh. On est crédible en tant que curateur puisqu'on sélectionne chaque artiste, même si on en a beaucoup, on a validé qu'ils ont ils ont une traction et ils ont un marché. Donc ça, c'est notre crédibilité en tant que plateforme et curateur. Et ensuite, on veut pouvoir aussi montrer qu'on accompagne les artistes dans leur carrière et on peut et on c'est notre on a que 5 ans, mais je suis persuadée que il y a des artistes qui vont se vendre des millions d'euros dans plusieurs années, qui sont aujourd'hui chez SingularArt. Donc comment on accompagne la cote, comment on arrive à détecter des talents qui ensuite vont se vendre, qui vont être voilà les artistes dans lesquels on va vouloir investir demain, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, c'est pas forcément facile, mais on a quelqu'un qui essaye aujourd'hui de contacter les institutions pour comprendre un petit peu ce qu'il faut faire, comment on peut le faire. Donc c'est sur la roadmap comme on dit, mais on a des discussions. On a aujourd'hui des artistes qui ont des œuvres collectionnées par des musées, mais parce qu'on a recruté ces artistes-là pour ça. Maintenant, comment nous, en tant qu'entreprise, en tant que galerie, on va les accompagner nous? C'est notre enjeu effectivement aujourd'hui. Donc nous, on n'a pas de lien aujourd'hui avec des fondations. En revanche, s'il y a des fondations qui nous écoutent, contactez-nous.
Vera est là. Et on en a parlé rapidement en introduction. On a parlé de, enfin, j'en ai parlé rapidement de Balthazart. Mm-hmm. Balthazart qui s'écrit en minuscule, alors que SingularArt est en majuscule.
Tout à fait.
J'imagine que ce n'est pas un détail de branding.
Non, c'est pas un détail de branding.
Tu peux nous en parler de ce petit cousin,
de ce petit,
ou ce
cousin,
petit frère. Je sais pas comment vous le nommez.
Ouais. L'idée, c'était de se dire. On accompagne, on reçoit des centaines de candidatures par semaine de personnes qui veulent présenter leurs œuvres sur Singular. Ils ne remplissent pas toujours les critères, donc on ne peut pas accepter tout le monde. Et par ailleurs, encore une fois, il y avait cette question de mission. Enfin, nous, on a envie d'accompagner, de digitaliser un maximum d'artistes. sur Singular Art, on peut pas, enfin voilà, on va pas pouvoir accepter des centaines de milliers d'artistes supplémentaires. Comment on fait pour en accompagner plus différemment? Et par ailleurs, je disais, on sélectionne des artistes qui ont déjà été reconnus par un marché national. Comment on fait pour avoir plus de diversité avant, et faire émerger des gens plus rapidement? Et on était persuadés qu'avec la data qu'on a et notre capacité à présenter des œuvres à un public et voir la manière dont ça répond, on allait pouvoir réduire énormément le temps avant lequel quelqu'un se dit « Allez, je me lance vraiment ». Donc l'ambition de Balatazar, c'est ça, c'est de se dire « Il y a des gens qui osent pas se lancer, il y a des gens qui se lancent mais qui font une petite expo où ils invitent leurs amis et leurs parents et ils ont pas un vrai regard critique qui permet d'avancer. Qu'est-ce qu'on peut construire comme proposition de valeur pour permettre ça ?» Il y a des boîtes dans la musique qui font ça et qui nous ont beaucoup inspirés. Et c'est encore là-dessus qu'on essaie de trouver une proposition de valeur qui a vraiment du sens.
Donc des artistes en devenir et qui demain pourraient avoir des belles cotes et rentrer sur Singular Art.
Exactement.
Ouvrir l'art finalement à tout le monde. Et j'imagine qu'en termes de prix, donc c'est aussi...
C'est en dessous de 1000 euros.
En dessous de 1000 euros. Et ça vous permet aussi de toucher éventuellement un autre type de public.
Un autre type de public, oui. Du coup, forcément, en termes de branding aussi, on s'adresse à une population plus jeune, plus digitale.
Ouais. Tu disais tout à l'heure, on a plus de 13 000 artistes. J'imagine que vous avez pas mal d'infos aussi sur les collectionneurs, donc de data. Comment vous gérez cette data aujourd'hui? Est-ce que ça vous permet de mettre, d'extraire certains patterns, qui a des idées complètement préconçues sur certaines choses, de dire ah ouais, ça se passe comme ça? Comment vous la traitez, toute cette data?
On a une équipe data.
Ouais. J'imagine c'est pas toi le soir sur Excel qui fait
non, c'était pendant longtemps mon associé le soir sur Excel qui faisait ça. Avec Data Studio. C'est hyper important pour prendre des bonnes décisions, notamment en produit.
Ouais. Notamment dans le choix, j'imagine, de nouveaux artistes éventuellement.
Dans le choix de nouveaux artistes, tout à fait, sur quels sont les artistes qui sont... comment on valide qu'il a une traction et qu'il a un marché. Donc en sourcing, c'est important en termes de recommandations personnalisées pour nos collectionneurs, puisque chaque collectionneur a une expérience et donc... une présentation d'œuvres différentes. Donc ça, c'est clé.
Sur le site, tu veux
dire ? Sur le site, ouais.
C'est-à-dire que quand il se connecte et qu'il a son espace personnel, lui sont proposés en premier des artistes qui potentiellement peuvent lui plaire ou un artiste qu'ils ont déjà acheté qui sort un nouveau...
Exactement.
Qui sort un nouveau...
Il a une nouvelle œuvre.
Il a une nouvelle œuvre.
Ouais, tout à fait. Oui, chaque, enfin, nos algorithmes dès qu'on arrive à capter un petit signal d'intérêt pour un style, une œuvre, un artiste, on lui fait des recommandations de plus en plus personnalisées.
Et le site change en fonction des pays aussi?
Aujourd'hui, non.
D'accord.
Aujourd'hui, il est similaire. C'est une question qu'on se pose, Mais je pense que c'est pas des grands changements, c'est plus du wording. Tu vois, peut-être sur les États-Unis avoir une approche où là on peut parler des artistes afro-américains, de la diversité, ce qu'on fait.
D'avoir des focus que tu peux pas faire
exactement
ici, par exemple.
Oui, ou parler de Noël dès maintenant aux Américains, par exemple.
Nous tournons au mois d'octobre, précise, pour ceux qui écouteraient ce podcast au mois de juillet l'année prochaine.
C'est ça.
En novembre. L'année dernière, donc ça va bientôt faire un an.
Ça va bientôt faire un an.
Ça passe très très vite. Vous avez fait votre troisième levée de fonds, 60 millions d'euros, si mes infos sont bonnes.
Oui.
Ça va vous permettre de faire quoi, tout cet argent?
Ça nous permet déjà.
Oui, ça vous permet
ça
déjà.
Ça nous permet déjà. Tu parlais de l'équipe data.
Oui.
Typiquement, on a aujourd'hui 30 personnes dans l'équipe tech et on a 3 personnes dans l'équipe data. C'est typiquement un budget d'investissement que ça nous permet de faire pour aller plus loin. C'est pas forcément des métiers que tu priorises autant quand tu lèves moins. Il y a beaucoup d'investissements people. Et après, c'est des explorations. Donc le lancement de Balthazar, le lancement de la catégorie design, l'ouverture du retail, ça fait partie des super projets qu'on peut lancer parce qu'on a du cash et qu'on peut tenter ces projets qui demandent un peu d'investissement.
Donc Singular Art va peut-être être une licorne.
Mais on aimerait bien être ce joli animal. En tout cas, l'ambition, c'est de diffuser l'art à un maximum, de pouvoir toucher, voilà, faire rentrer la créativité chez plein de gens. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourtant ont les moyens, qui ne pensent même pas acheter de l'art. Mmh. Ça, c'est notre enjeu. C'est comment on leur fait prendre conscience que ça pourrait les intéresser, ça pourrait leur faire du bien.
Et voir sensibiliser des profils qui pensent que ce n'est pas pour eux, parce qu'il peut y avoir aussi ce côté associé à un certain élitisme ou un certain niveau de vie. Mmh. On se dit, non, je ne peux pas acheter, pas pour moi.
Tout à fait.
On pousse. Enfin, certaines personnes peuvent se dire, je ne pousse pas la porte d'une galerie, ce n'est pas pour moi, je reste derrière la vitrine.
Exactement. Oui, oui. Déjà, en affichant les prix.
Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé de ça.
Les gens tout de suite savent que ça peut être dans leur budget.
Dans leur budget, oui. Mmh. Ça, j'imagine que les galeristes n'ont pas dû trop comprendre.
En fait, effectivement, dès lors qu'on affichait les prix, on était déjà en train de casser les codes. Ouais.
Parce que dans la galerie, si pour des
auteurs
qui nous écouteraient, qui ne seraient jamais rentrés dans une galerie, il faut demander, il y a la petite feuille avec le petit tableau,
avec les codes. C'est pas affiché à côté, quoi.
C'est pas affiché à côté.
Dans une foire, c'est souvent pareil. Mais c'est vrai que ça permet aux gens de se dire est-ce que ça c'est pour moi ou pas. Ce dont les gens ne se rendent pas forcément compte sur le site, encore une fois, parce que les algorithmes, etc., il y a des œuvres entre 250 euros et des centaines de milliers d'euros sur SingularArt. Donc voilà, il y a aussi des œuvres à 250 euros, même si on vend, on a un panier moyen plutôt à 2200.
Donc allez voir, en fait.
Exactement.
Avant qu'on parle plus de toi, je ne vais pas te redemander une nouvelle musique, ne t'inquiète pas. On a parlé rapidement du marché secondaire. Comment vous positionnez-vous par rapport au sujet des NFT, du Web3, etc. Je ne suis pas une experte, alors peux y aller.
Alors, ça reste dans ma tête pour l'instant, puisque si vous allez sur SingularArt, vous ne verrez absolument rien sur le Web3 et les NFT. Ça me fait rire parce que c'est un sujet où donc moi j'ai pris un congé maternité entre mai 2021 et donc fin août 2021. Donc quand je suis rentrée de congé mat, je me suis dit il faut que j'ai une réponse à cette question. Aujourd'hui, c'est plus une question de focus, c'est-à-dire que on a plein de choses à faire, on a levé des fonds, je te parlais du design, du retail, je vais pas rajouter dans la to-do list les NFT. Il y a des choses qui sont intéressantes à faire, notamment la possibilité pour les artistes de toucher un droit de suite lors de la revente de leurs œuvres. Nous, en tant que premiers vendeurs de leurs œuvres, si on leur permettait de tracer dans la blockchain leurs œuvres, ce serait une avancée. Encore une fois, je disais, on peut toucher 13 000 artistes. C'est ça notre force de frappe. Donc, ça pourrait être intéressant. Et quand même, la question environnementale, là, il y a une blockchain Ethereum qui est devenue plus green. Donc, ça ouvre, ça enlève cette charge mentale. J'y vois aussi potentiellement d'autres opportunités, mais disons que je pense que le public est assez différent de celui que nous on capte aujourd'hui. Ouais. Donc encore une fois, ça dépend de à quel moment tu le priorises dans ta roadmap. Aujourd'hui, ça l'est pas. Mais je suis attentive à ce qui se passe. C'est intéressant.
Donc peut-être que d'ici quelques années, tu viendras nous parler de SingularArt et ses NFT.
Pourquoi pas?
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
C'est tout un programme.
Je vais m'allonger sur le divan.
C'est ça. Si je te dis, Vera, quel entrepreneur es-tu? Tu me dis quoi?
Stressée. Je suis une entrepreneur stressée.
Je crois que tes parents n'étaient pas du tout entrepreneurs.
Non, mes parents étaient profs, parce qu'ils viennent de prendre leur retraite.
Ouais, donc on peut parler au passé. Et cette envie d'entreprendre, elle est née comment chez toi?
Je pense que j'ai su que ça s'appelait entreprendre tardivement.
Ouais.
Mais l'envie de faire des projets, de monter des projets, d'être active sur tous les fronts, ça je dois dater ça depuis que j'ai 13 ans, quelque chose comme ça. La première fois que j'ai monté un projet, c'était j'étais conseillère générale jeune de Savoie. Donc, je représentais mon collège au conseil général jeune. C'était une expérience incroyable. Et là, je me suis dit, wow, c'est génial. On a un budget, on peut faire un projet. Après, on avait un projet à faire en commission. On était vraiment dans le château des Ducs de Savoie. Enfin, on avait des micros. Enfin, c'était un truc de ouf. Et ça nous a donné la responsabilité de se dire, je représente 450 personnes, voilà, devant plein de gens. Et c'est la première fois que j'ai fait un tableau Excel avec un budget. C'est la première fois que j'allais faire un partenariat, puisque j'ai fait venir une autrice pour la jeunesse, Suzanne Morgenstern, qui est venue dans le collège, et on a fait un partenariat avec la médiathèque, un partenariat avec la librairie pour financer sa venue. Et c'est une autrice qui est américaine d'origine, donc elle a parlé du multiculturalisme, de ce que c'était qu'être américaine en France, d'écrire pour la jeunesse, enfin plein de sujets. Et voilà, là, ça, je pense, c'est le truc où je me suis dit, je veux faire ça tout le temps. mais j'ai commencé plutôt, effectivement, parce que j'ai jamais pensé que je pouvais le faire dans le business, parce que je savais pas ce que c'était qu'un business. J'ai fait dans des assos, j'ai monté des assos, j'ai été, voilà, très longtemps impliquée dans les instances de mes lycées diverses et variées pour être impliquée sur plein de projets. Donc, voilà, entreprendre, c'est arrivé. Quand je travaillais à la chambre de commerce de Pointe-Noire au Congo-Brazza, sur un projet, j'organisais un événement, voilà, j'étais en charge de tout le truc. Et en fait, à force de rencontrer des entrepreneurs sur place, je me suis sentie très proche d'eux. Et là, je me suis dit, peut-être qu'en fait...
je suis entrepreneur.
C'est ça, en fait. C'est ça que j'ai envie de faire, voilà.
Et quelle petite fille tu étais? Tu rêvais de faire quoi quand tu étais petite? Avant que tu découvres le Conseil général de Haute-Savoie.
Ouais. Je pense que je voulais... Je sais pas ce que je voulais faire, mais j'étais complètement fan de Catherine Deneuve.
Ah ouais?
Ouais. Donc je pense que quelque part, je voulais devenir actrice, tu vois. C'était un peu le...
Et qu'est-ce qui te fascinait chez toi?
Moi, Les Demoiselles de Rochefort, c'est le film de ma vie, tu vois. C'est joyeux. Donc, c'est Catherine Deneuve dans Les Demoiselles de Rochefort, tu vois.
Oui, voilà. D'accord.
Voilà. et donc, voilà, je sais pas, c'était la vie, quoi. Donc, c'était un peu mon rôle modèle quand j'étais petite fille.
C'est génial. Je te propose de te lancer une série de thèmes, de mots, d'idées et de réagir, comme ça te, okay. Comme ça te vient. Si je te dis intuition...
Qualité.
C'est une qualité que tu as?
C'est une qualité. J'ai longtemps cru que c'était un défaut.
Ah oui?
Non, mais parce que quand je suis rentrée dans le monde du business, je me suis dit, il faut avoir des choix rationnels, il faut donner de la data, il faut expliquer pourquoi on fait les choses. Et parfois, je dis là, mais... Ok, comment j'explique que là je le sens pas et en fait voilà, je me rends compte que l'intuition est quelque chose de très positif, mais ça n'empêche pas que la data est importante.
Bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre, mais disons que pendant longtemps je me suis dévalorisée parce que j'avais plus d'intuition que la capacité à tout de suite sortir des chiffres. Mmh. Or en fait, je pense que ça reste une qualité.
Rassure-moi, tu l'as réintégrée.
Oui, je ne l'ai pas abandonnée. J'ai accepté que c'était une force et j'ai arrêté de me dire « Attends, là, je vais sortir une réponse intuitive » et de me dévaloriser à ce moment-là.
Si je te dis héritage.
Si je dois penser à ce que je laisserais à ma fille... Enfin, ce que moi, par exemple, donc mes parents sont profs et donc prof d'anglais, enfin ma mère est prof d'anglais, je pense que ça a été une grande chance qu'elle me transmette l'envie d'apprendre des langues et l'envie d'être dans un environnement multiculturel. Ça, c'est l'héritage que j'ai eu et du coup, c'est l'héritage que j'aimerais transmettre. Mais je me dis qu'aujourd'hui, la tech est l'anglais d'il y a 10 ans. C'est genre le truc qu'il faut comprendre de base pour pouvoir avancer. Donc j'aimerais bien que l'héritage tech que j'ai acquis en bossant dans la tech, ouais. Ça j'aimerais bien pouvoir le transmettre à ma fille de manière naturelle, quoi, qu'elle n'ait pas à l'apprendre de manière structurée en y passant beaucoup de temps. Ça serait bien.
On a fait un podcast l'année dernière qui s'appelait Philosophie, où on donnait la parole aux 7-18 ans sur leur rapport au digital.
Okay.
Et alors, ce qui était assez bluffant, c'est qu'on les interrogeait avec notre prisme d'adultes et de parents. Et ils pouvaient avoir des réflexions hyper étonnantes et hyper intéressantes. Et moi, c'est toujours une question que je me pose quand je reçois à ce micro des femmes entrepreneurs, mamans. Je me dis comment elles envisagent demain leurs enfants, là je sais qu'elle est encore petite comme les miennes, mais comment en fait on gère le fait que potentiellement leur vie soit régie par des algorithmes, comment on leur explique ce qu'il y a derrière un réseau social par exemple, comment on leur explique la tech. Toi, est-ce que c'est des questions que tu t'es déjà posées?
Je me les pose, donc j'ai pas encore à les appliquer, mais typiquement la manière dont elle a identifié que le téléphone portable était un truc super cool. Je suis là, mais comment je fais pour lui expliquer que oui, c'est un objet utile, mais ça ne doit pas être un objet de fascination. C'est déjà quelque chose de que je me pose dans ces termes-là, mais ensuite sur les dangers d'Internet, sur comment ne pas penser que Instagram c'est la vie, c'est des choses, oui, dont il va falloir parler. Si c'est à l'adolescence et qu'elle t'envoie bouler, comment tu vas faire, je sais pas.
A priori, ça commence bien plus tôt que ça.
Mais sur le sujet, j'avoue que en fait, j'ai commencé à y réfléchir en lisant Les Cahiers d'Esther, qui est une BD de Riyad Satouf. Et en fait, ça m'a fait réaliser ça. Puisque donc, c'est Esther à partir de 10 ans. Et donc, elle est fascinée par... elle veut avoir un iPhone, quoi, c'est le rêve de sa vie. Et elle aborde un petit peu quand même ces questions-là, plus toutes les autres questions sur le terrorisme et des choses comme ça qui, pour moi, sont arrivées plutôt à l'adolescence. Et donc, oui, je me suis rendu compte. Et donc là, ouais, j'essaie de voir comment ses parents, les parents d'Esther, lui répondent. Mais oui, ça va être un enjeu très clair. Et je pense que si on est vigilant et qu'on explique, peut-être que du coup, si la tech l'intéresse et que des métiers dans la tech l'intéressent, elle aura cet esprit critique. Je pense que de toute façon, c'est la formation de l'esprit critique en général et comment intégrer les sujets tech à la formation à l'esprit critique. Je me dis que c'est ça. Donc on verra bien.
Encore un peu de temps.
Peut-être qu'un jour, Anouk écoutera ce podcast et se dira mais... Ma mère est tellement relou.
Ou tellement avant-gardiste.
Ou tellement avant-gardiste. Ouais, bien sûr, elle va dire ça.
Si je te dis fake it until you make it.
C'est trop d'efforts. C'est mieux de réussir tout de suite, non? Non, je suis pas à fond cette tête baissée. J'ai de l'intuition, j'ai des convictions. Donc il y a des choses que je vais faire parce que voilà, j'ai l'intuition qu'il faut les faire et je suis têtue, obstinée, persévérante selon les situations, c'est une qualité ou un défaut. Mais en revanche quand je me lance dans un gros truc, j'essaie quand même de prendre un peu de recul avant de me lancer à fond, ou quand je sais pas non plus à m'obstiner si je vois que ça marche pas.
Ouais.
Et donc se mettre des milestones, des deadlines, la fameuse question what would be a success, c'est une question que je pose tout le temps à tout le monde sur tous les projets avant de les commencer, parce qu'en fait je pense que ça c'est super important. C'est à la fois important de se dire quel est l'objectif, même si c'est un idéal, et alors là je suis à fond pour avoir des idéaux et dire voilà, la vision du projet, c'est quoi? Mais en revanche, à court terme, what would be a success? C'est hyper important.
C'était mon mot d'après, la réussite.
La réussite. C'est jamais acquis. Donc c'est pour ça que je suis une entrepreneur stressée.
Et si je te dis sororité?
C'est un joli mot. C'est un joli mot, c'est pas forcément toujours facile de savoir comment l'incarner, ni ce qu'il faudrait faire. Le jour où l'article sur les femmes du FT 120, il y a un article qui est sorti l'année dernière, j'ai pas dormi de la nuit parce que je ne savais pas. Je me suis dit, mais c'est un poids énorme. Qu'est-ce que je fais de ce truc, en fait? Et voilà, je n'ai pas encore trouvé la réponse.
Qu'est-ce qui te gênait,
ça me gêne pas. C'est juste que je me dis, ok, en fait, on m'a mis dans une sorte de palmarès. On m'a étiqueté genre nana de la tech qui atteint un certain palier de réussite. Et je me suis dit déjà, je suis, enfin, syndrome de l'imposteur, numéro première réaction. Deuxième réaction, ça m'oblige. Enfin, je me suis dit, est-ce que ça me donne une mission? Parce que je pense que je dis souvent que le livre de Sheryl Sandberg, Lean In, a été un wake-up call pour moi. Je l'ai lu quand on était en train de monter SingularArt, avant d'avoir des équipes. Et je me suis dit, ah ouais, donc en fait, là, si je fais partie des nanas qui arrivent à lever des fonds, tout ça, en fait, je suis déjà dans un pourcentage très faible. Ça m'oblige à une mission aussi pour... je l'ai pris un peu comme une mission perso, on the side, de me dire comment on encourage le leadership féminin. Donc, d'avoir l'article, tu vois, genre, ok. Et donc maintenant, on fait quoi? Je pense pas que ce soit... C'est juste que je me suis dit, voilà, maintenant, est-ce qu'il y a des choses concrètes que je peux faire? Et ça, je n'ai pas encore trouvé la réponse, parce que quand tu montes une boîte, c'est quand même ton focus numéro un. Hein. Donc, t'as pas non plus plein de temps à accorder à toutes les femmes entrepreneurs que tu voudrais soutenir.
Vous avez un message.
Alors Vera, j'ai cru comprendre de sources sûres que vous faisiez partie d'un club de lecture surnommé le Gigi Club. Donc est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce Gigi Club? Et puis, quelle est la place de la lecture dans votre parcours d'entrepreneur?
Est-ce que tu peux me dire qui c'est?
C'est Daphné Aubé, qui est une très bonne amie à moi et qui a cofondé Caractère, qui est une agence qui accompagne les artisans pour les mettre en relation avec les marques de luxe qui veulent faire des séries limitées, qui veulent avoir des installations pour des événements. Donc, ils font des très, très belles choses.
Et donc, Daphné, qui t'a donc vouvoyé, je pense, pour essayer de, de cacher qui elle était, te parle de ce club de lecture.
De ce club de lecture. Oui, il y a 4 ans, moi j'adore lire, je lis depuis que je sais lire. Et quand j'étais ado, j'avais un club de lecture, enfin la médiathèque de Chambéry, il y avait un club de lecture où on nous faisait découvrir toutes les nouveautés pour les ados. Et ça a été incroyable pour moi, enfin j'ai passé des super moments et j'ai énormément lu de romans contemporains. J'ai un peu moins lu pendant mes études, ou en tout cas pas des romans, pas de la littérature. Mais mes amis, enfin voilà, je pense que c'est la vie. Je suis amie avec des gens qui lisent beaucoup. Mon conjoint lit énormément. Donc c'est une place dans ma vie très importante. C'est comme ça que j'apprends le plus. Je parlais de Sheryl Sandberg, effectivement. Ouais. Ça fait partie des livres fondateurs. De référence. Alors, je retourne pas beaucoup dans les livres qui m'ont marqué. Enfin, je suis pas en train de les feuilleter tout le temps, mais voilà.
Mais tu retiens ce qui, sur le moment, t'as fait tilt.
Exactement. C'est une rencontre à un moment dans ta vie. Ça te parle ou ça te parle pas. Bon. Et donc, il y a 4 ans, quand, je sais pas, ça faisait du coup quasiment 2 ans que j'étais sur le projet SingularArt. C'était la rentrée littéraire avec une copine. On s'est dit, mais... On a envie de tout acheter, mais jamais on lira tout ça, en fait. Et on s'est dit, ouais, on lit de moins en moins, on n'arrive pas à sortir non plus de ce qu'on lit d'habitude. Donc, nous, on se recommandait des livres et tout. Puis j'ai fait, écoute, un des trucs que j'ai adoré dans mon adolescence, c'est ce club de lecture. Et si on en faisait un entre nous, et ce serait une super occasion, ça me forcerait à au moins lire un livre par mois nouveau. Et avoir mes potes au moins une fois par mois, toutes ensemble, et à optimiser mon temps. Et c'est comme ça qu'on a lancé le club de lecture.
Et vous êtes
combien ?
C'est
quelque chose de très important dans ma vie aujourd'hui. On est une dizaine.
Une dizaine
aujourd'hui.
Ouais. Et donc chacune apporte un livre et vous le faites tourner ?
Ouais, c'est à peu près ça. En fait, maintenant, le concept, c'est il y a une personne qui propose un livre qu'il ou elle a aimé.
Ouais.
Chaque mois, les autres le lisent et la fois d'après, on s'en parle. Et ça doit être un livre qui est en poche et qui fait moins de 250 pages, parce que quand même, il faut qu'on arrive à le lire en un mois. Donc, Voilà. Et par contre, un truc sur la lecture, récemment, j'ai fait un truc que j'aurais jamais pensé faire. J'ai acheté une liseuse. J'ai arrêté le papier. pour des questions de place quand t'as un bébé, après voilà.
T'achètes aussi des livres pour le bébé en
exactement.
Fait, ça prend beaucoup de place.
Ça prend beaucoup de place. Et quand tu veux partir en vacances, moi j'avais toujours 2-3 livres, voire plus. Et donc la liseuse, c'est assez pratique. Voilà.
Et t'en es contente? Parce que moi j'arrive pas à sauter le pas.
Je suis hyper contente. Parce qu'en fait, tu recrées l'effet. Enfin, tu peux t'endormir sur la liseuse comme tu t'endors sur un livre, le fait que ce soit pas la lumière bleue. Et si on rentre dans les stress de l'entrepreneur et les insomnies de l'entrepreneur, la liseuse, c'est quand même assez pratique parce que tu peux lire dans tes insomnies sans réveiller ton conjoint en allumant la lumière.
Ouais, ce qui est plutôt pas mal.
C'est plutôt pas mal.
Et juste un nom, pourquoi ce nom de Gigi?
Ah, c'est parce que... Du coup, j'ai parlé du club de référence qui était suivi quand j'étais ado. Et où d'ailleurs, j'ai rencontré une de mes très très bonnes amies qui se passait à la médiathèque de Chambéry, qui s'appelle la médiathèque Jean-Jacques Rousseau.
D'accord.
Gigi.
Ok. Rien à voir avec Jean-Jacques Goldman.
Non. Putain, j'ai rencontré ma life là.
Du coup, ça va faire une super transition avec Jean-Jacques Goldman.
Ok.
C'est un épisode années 80 ce matin.
Oui. C'est coordonné.
Si je te dis premier coup de culot.
Il y a beaucoup de choses qui sont cristallisées dans mon tout premier stage. À la fois le fait de me rendre compte que j'allais pas pouvoir travailler dans le parapublic longtemps.
C'était où ce premier stage?
C'est l'association des chambres de commerce francophones.
D'accord.
Donc qui fait de la coopération entre les chambres de commerce françaises, belges, québécoises et toutes les chambres d'Afrique francophone. Et on était hébergé à la chambre de commerce de Paris, enfin d'Île-de-France. Et mon premier coup de culot, je pense, ça a été un petit peu aidé par mon maître de stage de l'époque. Je voulais absolument partir travailler en Afrique. Et je voulais pas partir avec une organisation internationale ou française. Je voulais travailler avec des gens dans le pays. Et le coup de culot, ça a été d'aller parler au président de la chambre de commerce de Pointe-Noire pour lui dire que j'avais adoré travailler avec lui sur une étude. Et voilà, est-ce que je pouvais pas venir travailler avec chez lui? Et donc ça a été un culot un peu orchestré, parce qu'encore une fois, je pense que mon maître de stage a un peu préparé le terrain.
Ouais. Mais il fallait quand même y aller.
Mais j'y suis allée et ça a été le truc fondateur pour moi, le turning point. Il est incroyable, le président Mawenzela. Et j'ai tellement appris avec lui dans cette expérience. Et puis voilà, c'est ce qui m'a donné envie de devenir entrepreneur ensuite.
Et si je te dis ton premier renoncement?
Mon premier renoncement, ça a été, je pense, de me dire que le monde des ONG n'était pas pour moi. Ou en tout cas que ça n'allait pas me convenir. Mm-hmm. Il y en a eu plusieurs. Je suis rentrée à Sciences Po en me disant soit je vais faire de la politique ou travailler à la Commission européenne, premier grand rêve, ou dans une grande ONG. Et successivement, en l'espace de 3 ou 4 ans, j'ai dû renoncer à chacun des rêves parce que je me suis rendu compte que les environnements, les temps de décision de certaines organisations ou les microcosmes ne me convenaient pas. Et donc ça a été un renoncement positif, puisqu'ensuite ça m'a... Je me suis dit, ok, donc maintenant je fais quoi?
Puis un renoncement rapide, en fait.
Oui, c'était... Je me suis
pas
pris la dette.
20 ans de carrière et puis après te dire mince.
Exactement. Mais ça a été le premier renoncement, parce que voilà, je pense que j'avais
idéalisé,
puis j'avais fait un choix d'études dans cette direction-là, voilà.
Comme quoi on peut aussi être entrepreneur et ne pas avoir fait une école de commerce.
Tout à fait.
Dans ce studio, le temps de cette rubrique, j'ai tous les droits et je te nomme officiellement présidente de la République.
Trop cool comme dans Baron Noir.
Voilà. Quelle décision tu prendrais?
Écoute, il y a plein de choses. Enfin, je pense que j'aimerais pas être à sa place.
C'est rigolo, souvent on nous dit ça.
Voilà, pour être chef d'entreprise, je pense que être président de la République, c'est quand même un autre niveau. C'est un truc hyper micro, mais pour avoir du coup des parents profs, on a déjà parlé, et avoir donc été à Sciences Po et beaucoup d'amis qui ont passé les concours de la fonction publique, je trouve qu'il y a énormément de gâchis de talent parce que les RH de la fonction publique ne sont juste pas des RH, que les gens de la fonction publique ne sont pas managés et que les carrières ne sont pas très flexibles. Donc je pense que je m'attaquerai à ce sujet parce que voilà, je vois autour de moi beaucoup de gâchis de gens brillants qui ont passé des concours, qui ont eu l'ENA ou d'autres super institutions ou qui l'ont pas eu et qui ont fait autre chose et qui se retrouvent dans des jobs où ils s'ennuient à mourir et où ils n'ont pas d'impact. Je pense qu'il y a une question générationnelle. Hein. Les gens qui sont en école de commerce veulent plus aller dans les grands groupes et montent des boîtes. Les gens qui ont fait Sciences Po, ils savent pas trop quoi faire quand ils s'ennuient dans leur job. Et je pense que c'est du gros gâchis. Et voilà, pour avoir des parents profs, je pense que si on veut rallonger l'âge de la retraite. Il faut aussi proposer autre chose pour profiter de l'expérience, du savoir-faire de toutes ces personnes qui ont enseigné, qui ont une vraie vocation. Et aujourd'hui, l'éducation nationale a énormément de mal à recruter et à générer ces vocations. Et je pense que c'est pas juste une question de salaire. Quand on a les instituts qui sont devant 36 gamins et qui se disent que de toute façon, ils vont jamais pouvoir faire leur métier, ça les déprime. Et ils sont pas accompagnés. Et voilà, donc moi, ce serait mon combat.
Travailler donc la motivation et en passant par la valorisation de ces talents.
La valorisation et l'accompagnement, je pense, au quotidien. Et effectivement, potentiellement, des réflexions sur quelles peuvent être leurs ambitions, comment on accompagne les trajectoires individuelles.
Donc, tu ne prends pas le rôle de présidente, mais tu pourrais prendre le rôle de super DRH.
Ok.
De la fonction publique.
Au moins, j'aurais un focus.
Waouh! Est-ce que tu peux nous parler de ta plus grosse claque?
Alors, il y en a quelques-unes. Heureusement. Enfin, voilà, ça fait réagir, en fait. Un truc comme ça, je mentionne rapidement, pas besoin de passer du temps, mais les débuts de mon année Erasmus, ça a été l'angoisse.
Ah ouais.
Parce que après, en fait, quand t'arrives en Erasmus, aller en cours, c'est anecdotique, quoi. T'as pas vraiment de travail, on n'attend pas que... Enfin...
Erasmus, que tu faisais dans quel pays ?
En Hongrie, à Budapest. Et donc moi, j'y allais pour apprendre le hongrois, enfin voilà, vraiment découvrir la culture. Et là, après avoir passé des années à bosser, j'étais plutôt quand même sur le format bon élève, consciencieuse et tout. Et là, je me rends compte que j'aille en cours ou pas, enfin tout le monde s'en fout, ça ne change rien. Et c'est à moi de me mettre ma propre ambition. Et là, ça a été un peu un révélateur. Je me suis dit, mais en fait, ça va être ça la vie. C'est ça la vie. Et donc là, il y a eu des trucs qui se sont passés dans ma tête et j'ai commencé à me mettre mes propres projets. Mais non, ma première grosse claque pro, c'était donc encore une fois dans mon tout premier stage où j'ai pas, et là encore, ça a été mon maître de stage qui m'en a fait prendre conscience. J'ai pas anticipé ce que le fait d'être moi-même dans un environnement qui existe, préexistait avant moi, allait attirer comme perception sur ma personne. Et donc toutes les interprétations et les perceptions que les autres font de toi et de ton comportement et dont tu n'as pas conscience puisque tu n'es pas dans leur tête. Donc il y avait la secrétaire de mon boss à l'époque qui partageait mon bureau et je me suis pas rendu compte puisque je ne le savais pas à quel point le fait que le directeur de la section internationale de la chambre de commerce quand j'ai démarré mon stage et qu'il était à Paris, il s'arrêtait dans notre bureau 10 minutes à chaque fois pour discuter avec moi. Ce qu'il avait fait Sciences Po, l'ENA, et on discutait de relations internationales, et moi je trouvais ça passionnant, et je le trouvais hyper intéressant, et c'est encore quelqu'un que je vois aujourd'hui, donc voilà. Et en fait, je me suis pas rendu compte à quel point ça perturbait les gens qui partageaient le bureau avec moi, puisque eux, dans l'environnement avant Vera, le big boss, il s'arrêtait jamais. Ouais. Et que là, soudainement, il se passait un truc. Et donc, il s'est passé plein de choses, elle a pas été très cool avec moi. C'est même assez compliqué. Je le dis quand même, parce que ça, c'était quand même la grosse claque. Je suis arrivée un matin sur mon bureau, je revenais de voyage pour le boulot. Et j'avais un aimant sur mon bureau de Félix le chat dans sa panière. Il y avait écrit « Savoir rester à sa place ».
Ah oui, le message était très clair.
Le message était très clair. Voilà, donc ça c'était ma première claque. J'ai dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?»
Ouais.
Et du coup, ben, j'en ai quand même un petit peu... À la fin de mon stage, j'en ai parlé à mon boss. Et il m'a dit « Mais voilà, vous vous rendez pas compte en fait que... » ça a tout perturbé l'environnement. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai bien intégré. Donc je, quand tu montes ta boîte, bah forcément, tu crées l'environnement dès le départ.
Ouais.
Mais je suis attentive aussi à mettre au courant les gens de peut-être ce qui vont déranger ou de leur donner un peu des billes, parce que moi, j'étais tellement frustrée d'apprendre ça à la fin de mon stage. Ouais. Voilà, c'était ma...
Oui, puis les stages, finalement, peuvent être aussi un peu faits pour ça, parce que toi, t'arrives avec toute ta spontanéité, t'arrives avec ton envie de faire les choses, ton ambition, et qui est pour moi n'est pas un gros mot, mais vraiment j'ai envie de faire des trucs et des trucs bien.
Ouais.
Et donc tu peux bousculer des équilibres qui sont là et qui étaient bien comme ça.
Des politiques
pourquoi
internes.
Et des politiques internes. Ouais. Et c'est vrai que ça, on n'est pas préparé tant qu'on n'est pas dans la jungle, entre guillemets, de l'entreprise, et qui plus est quand c'est des grands groupes ou des grosses institutions.
Tout à fait.
Moi, c'est pas allé jusque-là, mais j'ai... ton histoire me parle.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Je vais me taire pendant les 3 prochaines minutes pour te laisser une carte blanche, Vera.
Alors, tu m'as donné l'opportunité de faire un petit coup de projecteur ou coup de cœur. Et là, j'ai pensé que j'étais hyper contente que Les Couilles sur la Table, le podcast, reprenne parce que j'ai appris plein de choses et notamment une réflexion qui me trotte énormément dans la tête. C'est un épisode sur le congé paternité, la comparaison de ce qui se passe dans d'autres pays. Et l'invité mentionnait que le fait d'obliger les hommes à prendre leur congé paternité quand leur conjointe ou leur conjoint reprend le travail, et donc d'être eux aussi tout seuls avec l'enfant pendant au moins un mois, c'était la meilleure mesure pour à long terme favoriser l'égalité des genres et qu'ils comprennent ce que c'était de s'occuper d'un bébé 24/24 et qu'ils nouent un lien très fort aussi avec leur enfant. Et voilà, et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Maintenant que le congé est pas... Nous, on avait signé avec Singular le Parental Act pour permettre au deuxième parent d'avoir un congé d'un mois. Maintenant, c'est quelque chose qui est légal, en tout cas pour les... les pères. On continue de l'octroyer au deuxième parent, quel que soit le sexe. Mais comment tu peux demander aux gens de prendre leur congé quand le deuxième parent reprend le boulot? C'est un peu d'ingérence dans la vie des gens, je trouve. Mais en revanche, si ça pouvait être la mesure qui favorise le plus l'égalité homme-femme, enfin, je trouve ça assez simple, en
fait. En tout cas, éveiller les consciences à ce sujet.
Éveiller les consciences à ce sujet.
Parce que c'est vrai, quand on a un bébé, quand on est deux à s'en occuper en même temps et quand on est tout seul, c'est pas tout à fait le même rythme.
C'est pas tout à fait le même rythme. Je pense pas que ça change fondamentalement les choses, mais en tout cas, je pense que c'est une mesure assez simple. Je sais qu'en, je crois que c'est en Allemagne ou en gros, il prolonge le congé maternité. Si le père prend aussi un congé de X jours, ben voilà, il pourrait y avoir des incentives. Mais j'avais trouvé ça assez simple à faire et
sans.
Puissant.
On en a parlé off micro tout à l'heure. Je te demandais si tu avais fait ta levée de fonds enceinte. Et tu m'as dit non, c'était un timing ou non. Mais par contre, est-ce que tu peux me raconter l'anecdote avec ton associé?
Oui. Donc, je rentre de congé maternité un tout petit peu plus tôt parce qu'il fallait commencer le roadshow le 30 août ou quelque chose comme ça.
Là, on te parle de NFT.
Là, on me parle de NFT, tout à fait. Voilà. Et ce qui est hyper important dans une levée de fonds, c'est le timing. C'est de toi imposer le timing au fond et de leur dire, bah voilà, j'ai ce programme et parce que sinon tu perds juste beaucoup trop de temps et t'es défocus de ton business pendant la levée de fonds. Donc à un moment donné, ça se paye. Et nous, la meilleure excuse qu'on avait au monde, c'était que donc moi je rentrais de congé mat et Brice allait partir en congé pat. deux mois et demi après le début de notre show. Et en fait, qui peut contrer un argument comme ça? En plus, c'était genre le père impliqué, voilà, et congé pâte, lui, ça se voyait pas, quoi, qu'il allait être papa, donc.
Sauf qu'il avait fait une couvette, la priorité. Non,
il avait pas fait de couvette. et en fait, du coup, tout le monde s'est aligné, tout le monde a tenu le timing et on a closé en novembre et il est parti serein en congé pâte, donc. Voilà, c'était effectivement un super timing pour moi aussi de revenir au moment de la levée, ouais. Puisque j'ai pu, c'est un super re-onboarding, tu parles de ta boîte, t'es challengé sur la vision et t'as eu du temps pour prendre du recul, donc c'était en fait assez bénéfique.
Et tu penses que l'inverse aurait été aussi efficace?
C'est-à-dire que si j'allais partir, ouais. Je pense qu'en fait les gens auraient vu ça dans la pièce tout le temps. Tu vois, enfin, t'as ton ventre et forcément les gens y pensent et le post levée, c'est un moment, le moment après la levée, c'est quand même un moment hyper intense parce que t'as levé des fonds, comme je disais, t'as été un peu défocus de ton business pendant un petit peu de temps, t'as laissé les équipes gérer, après tu reviens. Et ben, il faut que tu remettes les mains à la pâte, mais aussi avec les nouvelles ambitions, parce que quand t'as levé des fonds, les ambitions augmentent. Donc en fait, la période post-levée de fonds, elle est quand même assez intense. Et ça aurait été, je pense, dur pour moi de, tu vois, partir. Enfin, je sais pas, on verra, mais du coup, j'ai préféré le faire dans ce sens-là, quoi. Revenir, lever des fonds et être là. Être là pour la période post-levée.
Pour terminer ce 40 nuances de Sista, je t'ai demandé si toi, Vera, tu avais dû choisir une Sista, donc une femme entrepreneur que tu admires, tu aurais choisi qui?
Je choisirais Émilie Vielle, qui est la CEO de Snapkey. C'est très important pour moi d'avoir des amis entrepreneurs, femmes. Je pense qu'on se parle peut-être pas exactement des mêmes sujets que j'échangerais avec les entrepreneurs hommes. On se booste et Émilie, c'est la fille qui a le plus d'énergie au monde. Genre, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a autant d'énergie. Et elle en a pour toi quand t'es vraiment down. Voilà. Et par ailleurs, c'est un business hyper intéressant sur un marché très porteur.
Dans la prop tech.
Et elle est solo founder femme. Et je pense que voilà, elle mérite
ce
un super
projecteur. Et je confirme que c'est quelqu'un qui a une énergie débordante et folle. Et on l'embrasse du coup.
Exactement.
Vera, mille merci de t'être confiée à mon micro ce vendredi matin. Ma vie, ouais. C'était très chouette. Je souhaite plein de bonnes choses avec Singulart, Balthazart et les autres qui arriveront certainement, les autres petits cousins. J'ai envie de remettre...
Allez, on va danser.
On va danser, je crois. Attends, je vais remettre. On remettra au bon endroit.
Non, mais tout le monde va me trouver très ringarde. On galère ce soir ensemble et on oublie
tout. Ce soir, la vie n'est plus à... Merci Vera.
Merci. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort, on n'oublie pas tout. On va oublier tout, oublier tout, tout oublier, oublier. On est branché sur la radio. Dans la voiture, ça sonne très gros. À la Concorde.